On retrouve Arnaud Desjardins en compagnie de Daniel Stevens. Le sage français vient de nous quitter en août dernier. Il nous parle ici de l'exercice de la sagesse, et cela au quotidien, de l'importance de se dégager du désir pour lui. Et cette sagesse n'est pas l'apanage de la vieillesse.
Peut-être le mot sagesse fait peur, mais qui n'a pas une certaine idée, même sans avoir réfléchi à la question, de ce que c'est qu'un sage ? Il y a eu des sages dans l'Antiquité, et grecs, et on nous parle
de la première connotation, hindous. C'est un vieux. Hein, un sage est un vieux.
Oui. Mais dans les mondes anciens, les vieux étaient beaucoup plus respectés et admirés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Vous savez que chez les soufis, c'est-à-dire dans l'ésotérisme de l'islam, les soufis en langue, non pas arabe, mais persan, en Iran, en Afghanistan, on appelle le maître spirituel pir. Et pir veut dire vieux, vieillard. Et c'est ce qu'il y a de plus respectueux. Alors même si le maître a 35 ans, on s'adresse à lui en lui disant vieillard. En France, ça paraîtrait même pas respectueux de s'adresser à un homme de 40 ans et de l'appeler vieillard. Et pourtant, c'est le sens du mot pir. Donc c'est vrai, il y a un fond commun de toute l'humanité où il y avait l'idée que normalement, en vieillissant, avec la maturité, vient au moins un peu de sagesse.
Un jeune sage, ça ne peut dès lors pas exister.
Si. Un des maîtres les plus célèbres, vraiment célèbre en Inde, des milliers d'Européens, d'Occidentaux l'ont approché, a atteint ce qu'on appelle là-bas l'illumination ou la libération à l'âge de 17 ans. Sri Ramana Maharshi, qui a régné spirituellement sur le sud de l'Inde pendant 50 ans. 17 ans, il a atteint la sagesse suprême. Et des intellectuels, des moines hindous sont venus s'incliner devant lui pour écouter les paroles qui tombaient de sa bouche.
On pourrait se dire, Arnaud Desjardins, que cette sagesse qui, dans la plupart des cas, vient avec l'âge, un peu comme pour les vieux vins, finalement, il y a des comparaisons comme ça qui, je crois qu'elles sont entre autres japonaises ou chinoises, qui comparent l'homme à du vin qui évolue, tout comme lui. Si cette sagesse vient avec l'âge, peut-être la sagesse est-elle également l'approche de la mort. Peut-être est-elle plus obligatoire avec l'âge parce que la mort est plus proche et que dès lors, une de ces bornes de la vie nous concerne plus. Ou plus, d'une façon plus proche, plus rapide, pratiquement.
Oui, mais nous savons bien aussi que la mort, elle peut survenir à n'importe quel âge. Hein. On peut être tué dans un accident de voiture.
C'est plus naturel, disons,
oui.
Statistiquement.
C'est sûr. Mais bien sûr, c'est difficile à admettre aujourd'hui. La richesse de la vie, la plénitude de la vie est d'autant plus grande qu'on est plus familiarisé avec la certitude de sa propre mort. À cet égard, il y a une remarque que je peux faire qui m'a beaucoup frappé il y a 15 ou 20 ans, quand j'ai commencé à découvrir l'Asie. Si vous demandez à, disons un Français ou un Belge, hein, répondez-moi sans réfléchir, vous me dites chaque fois le contraire, de haut, bas, de long, court, de bon, méchant, de mort, vie.
Oui.
Et si vous posez la même question, vous faites le même test auprès d'un Asiatique, la réponse c'est toujours de mort, naissance. À une époque, ça m'a tellement intéressé que j'ai fait ce petit sondage, si on peut dire, auprès de beaucoup d'Européens et de beaucoup d'Indiens, ou même Tibétains avec mon interprète. Tous les Occidentaux opposent la mort, la vie, la mort. Tous les orientaux opposent la mort, la naissance, la mort. La vie étant le jeu incessant de la mort, de la naissance, de la mort, de la naissance, tout le temps. Et dans cette perspective, la mort apparaît comme étant inévitablement l'autre face d'une naissance. Ce que nous appelons la mort, nous, le décès. Enfin, il y a différentes approches, certaines paraissent tout de suite convaincantes, d'autres sont, je le sais bien, inadmissibles pour la plupart des biologistes. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie spirituelle implique la familiarité avec la mort. Et ça n'a rien de morbide, je peux ou l'assurer. Au contraire, si on ne peut pas complètement intégrer l'inévitabilité de notre mort, alors qu'est-ce que c'est que l'existence ? C'est un désastre, c'est une inexorable marche en avant vers la catastrophe finale.
Tiens, vous qui êtes allé voir du côté du théâtre, il suffit peut-être de repenser à ce monologue d'Hamlet, être ou ne pas être, voilà la question. Alors vous en faites quoi de ce monologue d'Hamlet ?
Le monologue, il est long, hein ? Il commence par « to be or not to be ».
Oui, that's the question. Alors il est peut-être plus noble à l'âme de subir les frondes et les traits, bon, peu importe, mais l'opposition entre être et ne pas être.
C'est un thème auquel on peut donner plusieurs sens. Hein. D'abord, qu'est-ce que nous appelons être ? Il y a deux niveaux d'être, deux manières d'être. Une manière qui est faite de peur et de protection contre cette peur, et une autre manière dans laquelle se révèle en nous comme une évidence, une certitude, une confiance, une absence de peur qui est stable. Parce que ça n'est pas simplement une idée ou une émotion. C'est l'enracinement dans la source même de notre vie. Et ça nous permet, pour commencer, d'accepter toutes les morts dont est faite une existence. L'enfant, c'est la mort du bébé. Le bébé meurt pour faire place à l'enfant. L'enfant meurt pour faire place à l'adolescent. L'adolescent meurt pour faire place à l'homme jeune. Et à chaque instant, il y a mort et renouvellement. Et la mentalité ordinaire, elle essaie de figer ce mouvement, de s'accrocher à quelque chose, au lieu de trouver sa sécurité dans ce mouvement continu. On peut dire que l'être qui est dans une pièce meurt au moment où nous franchissons la porte, et l'être qui est dans la pièce suivante vient de naître.
Alors, est-ce qu'il ne reste pas des grandes constantes ? Est-ce que Arnaud Desjardins d'aujourd'hui n'a pas des grandes constantes de l'Arnaud Desjardins qui faisait Sciences Po ?
Bon, il y a deux aspects. Il y a des constantes. Aucun sage n'est interchangeable avec un autre. L'un est plus brillant intellectuellement, l'autre beaucoup moins. L'autre a un humour fou et on ne cesse pas de rire auprès de lui. Et puis, ça n'est pas le cas d'un troisième. Il y a des constantes. C'est sûr. Bon. Mais il y a aussi un aspect beaucoup plus impersonnel dans lequel on découvre une conscience qui, bon, comme toute conscience d'être, pourrait s'exprimer par « je suis », mais qui est fondamentalement libre de tout ce qu'on rajoute à « je suis ». Non seulement je suis heureux, je suis malheureux, mais même je suis riche, je suis pauvre, je suis instruit, je suis ignorant, je suis marié, je suis célibataire, je suis aimé, je suis trahi, même je suis un homme, je suis une femme. Dans la méditation profonde, il y a une intense conscience d'être, mais il n'y a plus spécialement conscience d'être un homme ou spécialement conscience d'être une femme. Et on peut dire, c'est une approche, hein, une manière de s'exprimer, que cette conscience fondamentale est distribuée dans un rôle. Bon, pour l'un, c'est le rôle de François Mitterrand, et pour l'autre, c'est le rôle d'Arnaud Desjardins. Et distribué dans un rôle, comme un comédien, qui à la fois joue très consciencieusement le rôle dans lequel il est distribué, mais qui, au fond de lui-même, sait bien que ça n'est pas vrai. Seulement, la plupart des hommes sont comparables à un comédien qui s'identifierait avec le rôle, qui croirait vraiment qu'il est un chef de la résistance ou un officier allemand, par exemple. Bon, ben, il y a eu un cas célèbre dans l'histoire de la profession en France d'un comédien qui, ayant joué le rôle de Napoléon, avait fini par se prendre un peu trop pour Napoléon, mais tout le monde a considéré que ça était pathologique. Le comédien qui se prendrait vraiment pour le rôle dans lequel il est distribué relèverait de la psychiatrie. Et nous, tous êtres humains, nous commençons d'abord par nous prendre pour le rôle dans lequel la conscience ultime en nous est distribuée. Et c'est cette conscience que j'appelle conscience ultime que nous pouvons retrouver, ce qui nous rend fondamentalement libres par rapport à nos limitations que nous pouvons accepter, par rapport aux péripéties de notre existence, à notre destin.
Et puis le jour où nous nous retrouvons tout nus, où nous ne jouons plus ce rôle avec ces habits de théâtre, où nous sommes celui qui est, là on peut dire qu'on, enfin ce que vous appelez entre autres, ou ce que pas mal de traditions appellent, on est du verbe naître une deuxième fois, vous êtes un deux fois né à ce moment-là.
Oui, quand on fait cette découverte, sûrement c'est une nouvelle naissance parce que c'est une nouvelle vie qui commence. Mais rien ne nous interdit de jouer bien, très bien même, pourquoi pas, le rôle dans lequel nous sommes distribués. Un texte indien célèbre, extrait du Yoga Vashishta, dit « intérieurement détaché, mais agissant en apparence comme celui qui y est attaché ». C'est une profonde liberté.